Bienvenue sur Chaud Patate,
l'émission du PAT,
le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère.
L'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire.
À table !
Et rien de mieux que Chaud Patate pour accompagner votre repas un samedi sur deux à 12h30.
Bonjour à toutes et à tous, mangeurs et mangeuses du Sud-Lozère et d'ailleurs. Bienvenue dans le 20e épisode de Chaud Patate, l'émission du PAT. Le projet alimentaire de territoire du Sud-Lozère. Aujourd'hui, c'est Floriane qui vous parle, co-animatrice de ce projet avec Louise. L'objectif d'un PAT, c'est rendre accessible à tous et à toutes une alimentation saine, durable et locale. Comment ? En mettant autour de la table toutes les personnes qui s'intéressent à l'agriculture et à l'alimentation et qui souhaitent s'impliquer, par exemple pour installer des agriculteurs, développer les circuits courts, proposer des ateliers cuisine, instaurer l'éducation au goût et faire des ateliers potagers à l'école. Dans l'émission précédente, Louise vous a fait vivre de l'intérieur, justement, un atelier cuisine avec les enfants de l'école de Bar des Cévennes et avec celle du RPI de Gabriac et Sainte-Croix, où les professeurs proposent souvent de cuisiner en classe. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maureen, qui est éleveuse sur la ferme d'Auze à Saint-André-de-Valborgne. Bonjour Maureen, tu nous entends ? On est au téléphone avec toi.
Oui, je vous entends.
Et de Julien de la FR Civam pour parler d'abattage paysan en général et du projet d'abattoir de Sainte-Croix-Vallée-Française en particulier. Bonjour Julien.
Et bonjour Floriane.
Et c'est Véro qui fait la technique aujourd'hui. Merci Véro. En fin d'émission, on retrouvera Jean-Jacques pour une chronique jardin un peu spéciale puisqu'il nous a emmenés à la découverte de son jardin à Ispagnac. Pour commencer cette émission, je vais reprendre les travaux en fait de plusieurs chercheurs et chercheuses et aussi de personnes qui travaillent sur les questions d'abattage à la ferme qui avaient été présentées lors d'un colloque en 2019 qui s'appelait le colloque du GIS Démocratie et Participation. Et donc ces travaux, vous pourrez les retrouver en intégralité. Donc c'est une note qui s'appelle « Vers des abattoirs paysans ». Trajectoire, épreuve et portée d'une réappropriation de la mort des animaux d'élevage. Tout ça pour dire que pendant longtemps, l'abattage des animaux a été assuré par des établissements publics et que désormais, c'est plus une logique industrielle avec toutes les dérives du secteur marchand qui tend à dominer ce secteur. Et pourtant, on a de plus en plus de collectifs d'éleveurs et d'éleveuses qui cherchent à trouver d'autres modèles pour, entre autres, diminuer la souffrance animale et être en cohérence avec leurs valeurs. Donc la mise en place d'outils d'abattage gérés par les éleveurs et les éleveuses, que ce soit des outils fixes ou que ce soit des outils mobiles, c'est vraiment une réponse déjà aux besoins des éleveurs, mais aussi aux aspirations de plus en plus de consommateurs qui se posent des questions sur leur consommation de viande notamment. Les processus en fait de réappropriation de l'abattage donc par les éleveurs et les éleveuses eux-mêmes, en fait ça a une portée démocratique. Et on peut même parler dans ce cas-là de démocratie alimentaire. La démocratie alimentaire, c'est quand les citoyens peuvent eux-mêmes définir et contrôler leur alimentation et la façon dont elle est produite. Et donc l'abattage des animaux, c'est une étape clé de ces questions-là. Donc pour nous, accompagner un projet d'abattoir local et paysan, c'est en quelque sorte contribuer à l'émergence de cette démocratie alimentaire. Et c'est aussi le cas en Sud-Lozère, sachant que le PETR Sud-Lozère accompagne aussi une expérimentation de caisse commune alimentaire. Donc là aussi, on parle de démocratie alimentaire. Donc ça, c'est pour prendre un peu de hauteur. Peut-être on peut quand même, avant de donner quelques chiffres sur le contexte national, sur la question de l'abattage en France, juste avec Julien, vous redire... qu'est-ce qu'on a fait au niveau du PETR et de la FR Civam pour accompagner ce projet d'abattoir local dont on va parler après plus longuement avec Maureen. C'est un projet qui a émergé il y a maintenant presque une dizaine d'années.
Ça.
Le PETR a pu accompagner le groupe d'éleveurs et d'éleveuses, a financé aussi via le programme LEADER une étude technico-économique de faisabilité pour savoir un peu plus comment ça pouvait fonctionner. Ça, c'était en 2022-2023. Il y a eu un voyage d'études dans le Diois pour aller voir comment d'autres paysans s'étaient organisés. Depuis 2023, c'est la FR-CIVAM qui a repris progressivement l'accompagnement, notamment sur la recherche de subventions et la rédaction des dossiers d'agrément.
Exactement. Donc effectivement, ça fait partie, avec mon association, la Fédération Régionale des CIVAM d'Occitanie, ça fait partie d'un des projets que j'accompagne en Lozère, sachant qu'il y en a cette année 4, dont un GI2E en maraîchage, un groupe santé animale, et puis un projet un peu plus transversal qui est justement de faire le lien entre les dynamiques collectives de paysans et les projets de territoire, de type sécurité sociale alimentaire, le pôle alimentaire en sud de Lozère, le travail avec l'Alliance des solidarités, là, des associations d'aide alimentaire. Donc c'est un peu. Il y a différents projets et aussi il y a du liant dans mes missions. Et globalement, dans les CIVAM, on essaye justement de faire ce pont-là entre des exploitations, des groupes de fermes et puis des projets de territoire, des démarches territoriales qui associent des citoyens et des questions d'alimentation, de solidarité, d'agroécologie, de système économe, autonome, etc. Voilà, ça c'est un peu, on va dire, la structure, l'ADN de l'asso. Et de nos associations en général. Et l'accompagnement du coup de ce collectif-là, il consiste à essayer déjà de soutenir un peu un rythme de rencontres, d'échanges, et puis de soutien en termes de rédaction, comme tu disais, pour les subventions, pour le dossier d'agrément, pour reprendre un peu, refaire le point sur des choix techniques qui sont discutés au fur et à mesure, à partir des plans ou à partir des pratiques. Et ces pratiques, elles peuvent découler du dossier d'agrément et des remarques qui sont faites par les services, instructeurs, etc. Et notamment Maureen, elle a beaucoup bossé sur ce côté-là, dossier d'agrément, elle pourra nous en parler un petit peu. À quel point elle apprécie ce pan-là du boulot. C'est pas rien, un dossier d'agrément. Et en fait, et un projet comme ça, c'est pas rien, quoi, parce que c'est compliqué, c'est complexe. Définir des plans, définir des besoins techniques. Et puis, c'est des étapes. Chaque étape, en fait, est importante. Et chaque étape doit rendre compte de manière très précise de comment sont pratiqués les gestes et comment on prend soin à produire quelque chose de qualité et du coup d'autant plus respectueux des animaux et de leur bien-être. Alors c'est entre guillemets bien-être parce que c'est un peu l'étape où c'est un peu la dernière étape de la vie des animaux là, et donc le faire dans les meilleures conditions possibles, quoi. Voilà, effectivement. Je sais pas, juste pour rajouter aux éléments de contexte dont tu parlais tout à l'heure, il y a effectivement l'éloignement des abattoirs et surtout la fermeture des abattoirs, en fait. Parce qu'OK, il y a une concentration, une industrialisation, mais parce que en fait, les outils qui subsistent de plus en plus sont des outils qui sont les plus gros, qui font le plus de volume. Alors pas forcément les plus rentables, mais en tout cas qui sont plus aptes à subir les contextes économiques.
Et qui sont parfois destinés après à fournir l'export. Et pas forcément.
Mais après, il y a aussi des abattoirs. Okay. Tu vois, on a quand même deux abattoirs dans le département de la Lozère, et ceux-là, ils sont aussi importants, hein, parce que c'est Marvejol et Langogne, et parce que ça répond aux besoins de la majorité des exploitations, notamment bovins, porcins et compagnie en Nord-Lozère. Et effectivement, le contexte du Sud-Lozère, c'est beaucoup de petites fermes qui produisent de l'agneau, du chevreau. Et là, les abattoirs sont quand même assez éloignés, notamment quand il y a eu la fermeture d'Alès. Ça a commencé à être assez compliqué, et puis naturellement ce besoin il a été il est devenu plus évident en tous les cas, et dire que avoir un outil localement c'est pas du luxe, en fait, quoi. Enfin, moi c'est ce qui me semble. Donc il y a cette notion de pallier à l'éloignement, aux fermetures globalement, et avoir un peu un coussin de sécurité là, un outil à disposition pour boucler la chaîne de valeur, quoi. Il y a des attentes sociétales, comme tu le disais, mais sur la qualité des produits, mais aussi sur les conditions de vie des animaux, les conditions de leur mise à mort, avec tout ce qu'on voit effectivement, tout ce qu'on a vu pendant des années au niveau des abattoirs, des pratiques et d'hygiène et de non-respect du bien-être animal. Et puis ça vient répondre aussi à des exploitations qui sont principalement en circuit court et puis qui en fait, pour lesquelles ça va rentrer naturellement dans leur travail, en fait, quoi. Voilà, c'est une suite logique, et de boucler en fait la production, la transformation, et donc entre les deux, il y a quoi ? Il y a l'abattage, quoi. Donc ça vient s'insérer dans un tissu économique local qui est quand même ancré et important. Et au-delà de ça, en fait, et ce qui est un peu le dans l'ADN de ces projets-là collectifs, c'est la montée en autonomie, montée en compétences, et ça globalement Voilà, ça vient impacter au-delà voilà, des aspects de transport, d'éloignement, etc. Ça vient impacter tout un tas de plus-value à ce projet-là pour le territoire, pour les gens qui le constituent et ensuite pour les consommateurs, quoi.
Ouais. Sachant que ça repose aussi sur l'envie de faire ça en collectif et que sur le territoire, on a déjà des ateliers collectifs qui fonctionnent et que c'est, ça a été, j'imagine, mais on va en parler avec Maureen... naturel de se dire que ça allait être une question qui allait pouvoir être traitée à plusieurs sur un territoire donné, quoi.
Oui.
Peut-être sur le contexte national, juste je reviens à ça parce que tu m'as envoyé un message aujourd'hui, je crois, pour me dire qu'il y avait une... Enfin, pas qu'à moi, qu'il y avait une... Dans la loi qui était en train d'être... qui venait de passer à l'Assemblée nationale, mais qui passera peut-être pas entièrement au final, mais la loi sur l'agriculture de montagne, il y a des dispositions qui ont été prises pour finalement favoriser quand même ces petits abattoirs locaux. Et donc, ça va dans le sens du travail qui est mené là depuis 15 ans par un certain nombre de collectifs de paysans qui réclament effectivement de pouvoir créer ces outils qui correspondent vraiment à leurs besoins.
Oui, alors déjà, il y a un contexte national relativement favorable depuis 2019 où le ministère de l'Agriculture autorise des expérimentations un peu partout, de différents types, sur des solutions mobiles, des abattoirs de paysans, des abattoirs à la ferme, etc. Donc il y avait une souplesse, mais on va dire à titre d'expérimentation. Et là, effectivement, il y a un texte de loi qui cherche à rendre les montagnes vivantes et dynamiques et qui, effectivement, il y a quelques articles qui concernent l'abattage paysan qui vont permettre mieux reconnaître les besoins spécifiques des zones de montagne pour ces élevages, apporter des souplesses par rapport au volume et régime d'autorisation, déclaration par rapport, on va dire, à des outils plus industriels, avoir des exigences à ce niveau-là qui soient plus en rapport avec les volumes qui sortent de ces petits abattoirs. Et puis aussi garantir et favoriser un maillage vétérinaire pour répondre aux besoins en fait, des spécificités de ces territoires, sachant que sur un abattage, qu'il soit paysan, qu'il soit classique ou à la ferme, il y a une présence obligatoire des vétérinaires sanitaires avant la mort, ensuite après la mort pour vérifier les carcasses, etc. Donc en fait, ça a beau être un petit abattoir, ce sera un abattoir comme un autre en termes de normes sanitaires, quoi. Voilà. Et puis effectivement, il y a tout un boulot à saluer des collègues qui travaillent sur ces sujets-là depuis de nombreuses années. Je pense à Fabien Champion de la Confédération Paysanne, à Jacques Alverne de l'Association pour les abattages paysans, où en fait, effectivement, eux, ils accompagnent et ils construisent du plaidoyer pour les projets d'abattoirs à la ferme, pour les abattoirs coopératifs, pour les solutions de caissons mobiles. Et en gros, il y a beaucoup de nuances de projets d'abattage et il y a quand même effectivement un historique et syndical du coup par la Confédération Paysanne et aussi associatif par cette personne-là qui est un ancien directeur d'abattoir et qui est très, très motivé, très moteur pour accompagner tous les paysans sur ces projets-là, quoi. Voilà, que Maureen a pu rencontrer d'ailleurs. Dès 2023, au moment un peu du relais PETR CIVAM, là, il y a eu une formation effectivement sur l'agrément sanitaire avec Jacques Alverne.
Ça fait la transition, je pense, pour maintenant parler du projet du sud de Lozère avec Maureen. Tu es toujours là? Tu nous entends bien?
Oui, je suis toujours là.
Est-ce qu'avant de rentrer dans le détail du projet de Sainte-Croix, est-ce que tu peux nous présenter un peu ta ferme, ce que vous y produisez, combien vous êtes, depuis quand? Enfin voilà, on veut tout savoir.
Du coup, nous, on est installés assez récemment. Là, ça fait 3 ans qu'on est installés officiellement. On est 3 en GAEC et on a repris une ferme qui était déjà une ferme Terre de Liens. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui met à disposition terres et bâtiments en location pour des agriculteurs. Voilà. Et nous, on est en production brebis laitières avec transformation fromagère et carnée, puisqu'on engraisse nos agneaux et on les transforme nous-mêmes. Voilà. Chose qui était déjà le cas auparavant. Les gens qui sont partis à la retraite juste avant nous avaient déjà ces deux ateliers, viande et lait, fromage. Et voilà. Donc ça fait longtemps que cette ferme, elle a ces deux activités. Et donc, en fait, nous, quand on est arrivés, il y avait déjà le projet de créer un abattoir à Sainte-Croix. Et on s'est tout naturellement mis dans la boucle, parce que ça nous paraît assez logique de maîtriser la seule étape qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire l'abattage de nos animaux. Et voilà, donc nous, on est dans le projet depuis 3 ans, on va dire, 3-4 ans. Et mais il avait commencé bien avant quand même.
Ok, et là en ce moment, vous avez quoi comme travail? Tu nous disais que c'était pas le meilleur moment pour faire une émission de radio, donc vous êtes occupé par les foins par...
Ouais, bah, y a les foins, nous on fait 3 marchés semaine, on a les charcutes aussi qui se rajoutent, et puis après bah, on fait la traite et pas mal de sortes de fromages, donc ça nous prend pas mal de temps. Donc là on est dans le plus gros de notre année, on va dire.
Ouais, c'est le pic de lactation et...
Non, c'est pas le pic de lactation, on l'a passé, mais c'est le pic de travail, on va dire.
Okay. Et donc la fromagerie, elle est sur la ferme, j'imagine.
Ouais, ouais, la fromagerie est sur la ferme.
Et par contre, l'atelier de transfo pour la viande...
Ouais, il est à Sainte-Croix-Vallée-Française, du coup, et c'est un atelier qui fonctionne déjà en Cuma. Donc là, c'était l'année dernière. Julien, il sera meilleur pour dire les dates, je crois. Tu me corrigeras, Julien. Mais je crois que c'est l'année dernière qu'on a créé la branche abattoir de la Cuma.
Presque.
L'année d'avant.
C'est en 2024, ouais.
Ça passe vite.
Ouais, ça passe vite. Voilà. Donc, en fait, le projet d'abattoir, en tout cas, les bâtiments seront presque accolés à cet atelier de transformation qui fonctionne déjà depuis, je crois, pas loin d'une trentaine d'années. Il est super, vraiment, cet atelier, il est très fonctionnel. Et du coup, l'abattoir, logiquement, il sera juste à côté. Donc, en fait, ça évite aussi pas mal de déplacements, notamment le déplacement des carcasses, en fait, parce qu'elles seront juste à côté, quoi. Donc, ça a vraiment une cohérence, en tout cas.
Mmh. Ouais, alors moi, qui avais suivi le tout début du projet, au départ, en fait, l'abattoir, il avait été réfléchi comme mobile, parce qu'il y avait eu plusieurs sites identifiés, dont le site de Sainte-Croix avec la Cuma des Hauts-Gardons qui effectivement tournait déjà bien, et donc c'était logique que la remorque abattoir puisse se connecter à cet atelier-là. Et il y avait eu l'idée qu'il puisse s'installer à un endroit à Florac et à Saint-Julien-des-Points, puisqu'à ce moment-là, il y avait un projet d'atelier de transformation de viande aussi, qui a vu le jour, mais qui a vu le jour sans porteur de projet. Donc c'est un atelier qui ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Et donc c'est là qu'on voit aussi que bah, le groupe d'éleveurs et d'éleveuses du départ a su aussi revoir le projet, s'adapter en gros à ce qui se passait et aux nouvelles modalités. Et donc vous avez décidé effectivement de démarrer à Sainte-Croix avec en plus l'opportunité donc d'achat de cette remorque qu'il faut réaménager, mais qui est déjà prête pour ça, quoi. Là effectivement, sur les dernières années, ça s'est concrétisé à Sainte-Croix, avec aussi, je pense, le fait d'avoir convaincu la Cuma des Hauts-Gardons de se lancer sur cette nouvelle activité, sachant que vous êtes combien d'éleveurs du coup concernés, combien de fermes?
Je sais plus, Julien.
Ouais, c'est une quinzaine.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Qui sont situés en gros dans un rayon. J'ai parlé du projet Sud-Lozère, mais en fait, il y a le Gard aussi. En gros, ça va justement de Saint-André de Valborne à Ventalon en Cévennes.
Il n'y a que nous dans le Gard, en vrai.
Ouais, il y a une personne, effectivement, dans le Piémont vers Anduze, là, enfin une ferme. Et après, effectivement, c'est entre Saint-Frézin, entre Vallée-Longue, Vallée-Française et Vallée-Borgne, quoi.
Ouais. Voilà,
surtout. Ouais, ça fait un territoire de 500 km² avec une quinzaine de fermes. Et ça, c'est le collectif de départ, on va dire le collectif le plus motivé, le plus moteur, qui investit pas mal de temps. Mais l'idée, c'est quand même, après, quand même de monter un peu en puissance et d'abord se donner les moyens de boucler le projet, et puis ensuite d'intégrer du monde et de faire monter l'outil un peu en capacité. Et justement, ce sera peut-être les premières phases de voir c'est quoi la capacité de l'outil et qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est possible de gérer en collectif aussi, quoi. Voilà.
Et justement, donc là, oui, je vois que vous êtes une quinzaine de fermes et que pour l'instant, il y aurait un volume à 5 tonnes carcasses pour la première année. Donc ça, c'est un peu la limite pour démarrer et c'est ce qui correspond à ce que vous produisez, vous, à vos 15 fermes. L'idée, c'est de démarrer en 2027, si tout se passe bien.
Oui, ben après, on va dire le plus tôt sera le mieux, mais... Vu que qu'on a déjà pas mal de travail dans nos fermes et que c'est sur notre temps extérieur, même si on est accompagné par des animateurs chouettes, ça prendra le temps que ça prendra, je dirais. L'important, c'est que ça avance dans le bon sens et en fonction du temps qu'on peut y mettre, quoi.
Ouais,
Oui, on souhaite que ce soit le plus tôt possible, mais après, de vous donner une date exacte, je pense que ça sert à rien. On verra bien.
Et donc là, justement, est-ce que tu peux nous dire où ça en est, là, en ce moment, ouais. À Sainte-Croix, qu'est-ce qui se passe et ce qui va se passer après, là, dans l'été, dans l'hiver?
Du coup, là, on en est rendu, on va dire qu'il y a deux fronts qui avancent en même temps. Il y a les travaux en eux-mêmes, du coup, qui ont déjà bien commencé, donc il y a eu tout un travail... sur le permis de construire, sur les plans avec un architecte, avec des artisans. Tout ça en parallèle avec l'agrément sanitaire, en fait, on va dire qu'il compile un peu tout le fonctionnement et toutes les normes sanitaires de bien-traitance animale, etc. Donc, en fait, ça avance un peu en même temps parce que les plans évoluent en fonction de notre agrément aussi. Donc, il y a ces deux fronts qui avancent en même temps, mais en tout cas, en ce qui concerne les travaux, on va dire que les fondations sont, je crois que là, elles sont terminées. Donc après, on va rentrer dans une phase d'autoconstruction où c'est plutôt nous, les éleveurs, qu'allons avancer. Nous, en gros, on va monter les murs, la charpente et les toitures, à peu près. Donc là, l'idée, ce serait sans doute de faire ça cet automne, avec les disponibilités de chacun. Donc ça, c'est pour la partie travaux. Et du coup, pour la partie agrément, on est un petit peu moins à bosser là-dessus. Notamment, on bosse pas mal avec Julien. On a déjà envoyé deux versions au service instructeur. Et là, on est en train de travailler sur la troisième version. On devrait finaliser pour la fin de l'été. Je sais pas ce que t'en penses, Julien, mais au moins, à la fin de l'été, je pense qu'on enverra cette troisième version qui devrait, j'espère, être la bonne.
Ouais, et puis en plus, ce qui est encourageant, c'est qu'entre la première et la deuxième, tout ce qu'on avait déjà fait avancer, évoluer, modifier, a été retenu. On n'a pas été critiqué sur les choses qu'on avait déjà apportées. Du coup, et là, sur la deuxième version, c'était d'autres choses qui ont été relevées finalement, notamment du fait que en fait, c'est un collectif. Du coup, il faut présenter un règlement intérieur déjà dans ce dossier d'agrément, quelque chose qu'on n'avait pas encore fait. Donc là, on s'y colle aussi. Et puis, il y a quelques réponses à apporter, des précisions sur la gestion des carcasses d'une étape à une autre. Enfin, voilà. Donc là, c'est un peu du réglage et en même temps, comme le disait Maureen, ça permet de finalement d'affiner ce que vont être les gestes et les pratiques dans l'abattoir, parce qu'en fait, c'est un peu un travail autant exploratoire de caler un fonctionnement qui n'est pas encore là, en fait. Du coup, c'est beaucoup de projection et aussi en même temps, le cadre fait que on doit se dire que les pratiques, c'est comme ça qu'il faudrait qu'elles soient faites. Et ça fera partie des, on va dire, les opérationnels pour le groupe. Ça va être de tester l'outil en gros et de se mettre à corps avec les services vétérinaires justement pour bien convenir du mode de fonctionnement et des gestes et puis des étapes et puis du respect des animaux du début à la fin, quoi. Voilà.
Et après, vous allez aussi avoir un gros travail d'organisation justement du collectif sur comment s'organisent les sessions d'abattage, quels éleveurs font quelles tâches, puisqu'il va y avoir à la fois la gestion du fonctionnement de l'abattoir, mais aussi, j'imagine, des tâches administratives, gérer tout cet outil collectivement, quoi.
Hein, Maureen?
Et ça s'anticipe aussi.
Après, je pense que dans le collectif d'éleveurs, on est beaucoup à fonctionner déjà dans d'autres collectifs.
Ouais,
après, chaque collectif a des règles différentes. Là, pour un abattoir, ça sera bien particulier, mais je pense qu'on arrivera... On aura les ressources pour trouver le bon fonctionnement.
Ouais. C'est ce qui, je pense aussi, a fait la force de votre groupe et que même si le projet, on peut avoir l'impression qu'il met longtemps à se concrétiser, l'habitude effectivement de travailler en collectif et de ces projets-là fait que vous êtes toujours là et que vous allez réussir à aller au bout de ce que vous souhaitiez, quoi. Et je pense que ça, c'est effectivement une force de pas mal de paysans des Cévennes sur cet aspect, quoi, de faire les choses à plusieurs. Et Julien, peut-être tu peux nous parler un peu quand même aussi de ce qui ferait avancer un peu plus le projet là, à l'heure actuelle, si, notamment des subventions ou des recherches de subventions qui sont en cours, parce que c'est un projet évidemment qui a nécessité à la fois le fait que les éleveurs ont participé, des fonds publics. Il y a eu aussi à un moment donné un appel à dons pour tous ceux qui se sentaient concernés par le projet. Donc peut-être dis-nous-en un peu plus là où on en est en ce moment.
Ben ouais, effectivement, comme tu disais, il y avait une campagne participative qui avait très bien marché en 2024. Moi, quand je suis arrivé, c'est le PETR et ma prédécesseuse Betty qui avait lancé cette campagne et qui avait très bien fonctionné. On en avait réuni 30 000 euros, donc ça avait permis de construire une bonne partie de l'autofinancement. Et ensuite, il y a eu les fonds Carasso qui ont été sollicités, Fondation Carasso, Daniel Nina Carasso. Et en plus, ensuite, on a travaillé sur des dossiers plus classiques de subventions auprès de la région, comme des pour constituer un peu le financement public pour la création de l'outil, quoi, notamment l'immobilier d'entreprise. Quoi.
Parce que l'investissement, là, il est de quel ordre ?
Alors, du coup, il est un peu à géométrie variable. C'est un peu comme le projet. Au départ, c'était 350 000 euros. Et là, vu les financements et la difficulté d'aller chercher des financements, notamment, par exemple, on a été chercher la même année que la région le Fonds Avenir Bio, sauf que le Fonds Avenir Bio, c'était en 2025. En fait, il y a eu un gel complet des attributions. En fait, et du coup, là, on s'est fait... on comptait sur 80 000 euros de subvention de l'agence bio, auquel on n'a pas pu prétendre. Et donc là, un peu le jeu, maintenant, c'est d'aller chercher éventuellement des nouveaux financement et puis éventuellement pourquoi pas du mécénat, mais en tout cas c'est un peu vu que c'est un peu une ressource rare maintenant, il faut bien viser et puis il faut aller vite parce que ça va vite, puis après il faut avoir plusieurs cordes à son arc, donc pourquoi pas l'idée de mécénat. Et puis déjà première piste de financement, en fait c'est l'emprunt, c'est les éleveurs qui vont l'assumer eux-mêmes par le fonctionnement de l'outil. Effectivement là les financements ils vont pas plus ou moins permettre que le projet se fasse, ils vont simplement peut-être pouvoir permettre de soulager l'investissement et surtout le coût que ça va générer de rembourser un emprunt chaque année. Du coup, ça va se répercuter effectivement sur le fonctionnement, mais en tous les cas, voilà, ça peut permettre de faciliter aussi la réalisation et la gestion ensuite. Après, les besoins, effectivement, ils sont un peu de cette nature-là. Ils sont aussi sur le besoin, ça va être de trouver des temps, comme le disait Maureen, quoi. Ils sont tous très occupés, ils sont des fois dispo, mais pas forcément tous ensemble. Donc, dans l'enjeu de l'animation, là, c'est un peu d'articuler les temps de présence de chacun. Ça va être d'articuler les différents chantiers à avancer en parallèle, l'agrément, les travaux, les subs, la communication. Ça va être un peu moins boulot, mais qui va quand même reposer vachement sur tout le groupe, en fait, quoi. Moi, je ne vais pas faire tout seul. Et donc, avec l'animation, il faut aussi aller chercher des sous pour le faire, parce que c'est, mine de rien, c'est quand même un sacré temps de travail. Moi, j'estime à 25% cette année, au moins. Et ça pourrait être 50% de mon temps, en fait. Il y a un réel besoin, et la seule limite, c'est pareil, c'est les financements publics, qui sont des fois... plus en plus délicat à aller chercher et puis pas toujours sur des projets d'abattoir, en fait, parce que ça fait pas forcément rêver des financeurs qui financent de l'agroécologie que de financer des abattoirs. Voilà, on est plus sur planter des arbres, planter des haies, refaire l'hydrologie régénérative, mais l'abattoir c'est un autre morceau à défendre, quoi.
Pourtant vous le défendez bien. Maureen, est-ce que tu veux nous dire encore quelques mots?
Rien de plus, hein. On va avancer tranquillement, en tout cas on est bien motivé pour que ça se passe. Donc, si ça prend du temps, ça verra le jour. Ça prendra juste le temps que ça faut, ce qu'il faut.
Ok, en tout cas, merci. Julien, lève le doigt et je te donne la parole aussi.
Oui, on a refait une petite newsletter récemment là, qui fait un peu le tour du projet depuis 2024, en très condensé. Hein, mais c'était aussi l'occasion pour dire à toutes les personnes qui ont participé via le financement Mimosa, qui avait effectivement des contreparties. Alors bien souvent, les gens, ils se fichent un peu de la contrepartie, mais quand même, dans ces contreparties, il y avait des visites de ferme, il y avait des paniers, et puis il y avait un barbecue pour l'inauguration. Et donc, a priori, à un moment donné, on va recommuniquer certainement un peu plus dans quelques mois, peut-être un an, ça se trouve. Et peut-être ce sera l'occasion de marquer le coup vraiment et de réinviter toutes les personnes qui ont participé ou qui sont curieuses de voir le projet sortir de terre. Voilà.
Et si vous voulez aller un peu plus loin sur ces questions-là, Maureen, tu nous avais proposé un roman quand je t'avais demandé s'il y avait des lectures qui pouvaient être intéressantes sur ce sujet. Donc le roman de Fabien Granier qui s'appelle La pire espèce. Tu l'as lu, toi ?
Moi ?
Ouais.
Oui, je l'ai lu, ouais, il est super bien, ouais.
Ok, je mettrai la référence avec l'émission. Moi, je suis allée voir le site Abattage Paysan, où il y a aussi plein de ressources et plein d'infos sur les différents projet d'abattoir, et puis sur de façon plus large cette question qui est une vraie question de société, de quand on mange de la viande, quel choix ça implique en amont, et en tant qu'effectivement citoyen, on a aussi notre mot à dire sur ça. Et donc là, vous répondez vraiment à cette question-là avec ce projet, je trouve. Et Julien lève encore la main.
Autre ressource, vidéo. Pour le coup, là, c'est les collègues du CIVAM Empreinte qui ont fait ce film-là, paysan et l'animatrice là, qui ont travaillé là-dessus. C'est un film qui s'appelle Être vivant. Il avait été diffusé à Florac dans une soirée avec deux intervenants, là, un paysan local et puis un chercheur et éleveur. Du coup, c'est un film assez intéressant qui parle justement de ces aspects sensibles, en fait, de pourquoi on fait de l'élevage, à quoi ça rime en fait d'élever des animaux, et puis comment on les amène aussi vers la mort. Des chouettes témoignages très structurés, très bien amenés. On n'était pas dans le revendicatif, dans le très militant, en fait. On était plutôt dans une approche assez humaine et sensible de cette question-là.
Ben merci pour tout ça. Ben merci Maureen d'avoir consacré un peu du temps de ton après-midi à cette émission. Bonne suite de journée.
Oui, à vous aussi.
Ouais, merci Maureen, à bientôt.
Salut, à bientôt Julien. Ouais.
Et nous partons maintenant à la rencontre de Jean-Jacques qui va nous faire visiter son jardin à Hispaniac.
Yes, yes, my flowers are beautiful.
Jackie, c'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes.
Et qui les écoute aussi, c'est important.
Et il les a trouvés où, ces légumes? Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carotte?
Le drame avec Jean-Jacques, c'est qu'il ne peut pas contrôler ça.
On a aujourd'hui une chronique jardin un peu particulière puisque Jean-Jacques nous emmène à la découverte de son jardin dans le vallon d'Hispaniac. Et on est avec Emilien, stagiaire à Radio Barthas.
Bonjour tout le monde.
Léo qui s'occupe du son et donc Jean-Jacques qui va nous faire une petite visite de son jardin. On va se balader entre les légumes, les fleurs et voir un peu ce que tu peux nous en dire dans le temps qu'on a aujourd'hui.
Oui, bonjour. Eh bien, déjà, merci d'être venu à Hispaniac. C'est toujours bien de visiter en vrai, hein, pour une fois, ça me fait plaisir. Donc, vous avez devant vous le jardin d'environ 1300 mètres carrés, déjà, pour situer, à l'altitude de 500 à Hispaniac. Donc, déjà, à Hispaniac, on peut parler un peu de son joli microclimat. Donc, déjà, à l'altitude 500, on peut se permettre de cultiver pas mal de choses intéressantes. Donc le jardin nourricier, parce que c'est important d'en parler, c'est comme ça que j'ai été élevé. J'ai toujours vu des parents faire du jardin parce que c'était un revenu et puis on était content de trouver les légumes du jardin. Donc le jardin nourricier fait environ 300-400 mètres carrés. Il faut noter que je suis privilégié à Hispaniac parce que dans le fond de la vallée, on a une terre, un complexe argilo-humique qui est très 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 intéressant. Parce que ce sont le résultat de 13 millions d'années où le Tarn, petit à petit, a grignoté l'Écosse et a accumulé beaucoup de sédiments, de sable, de limon au fond de la vallée. Donc on a un terrain qui est naturellement fertile. Mon dada, c'est le compost. Ça fait quelques émissions qu'on essaie d'en parler. Donc je me charge. Et c'est mon premier travail au jardin, c'est de rendre vraiment le sol encore plus fertile, disons de maintenir sa fertilité et de maintenir la vie dans le sol. Donc on va s'approcher du jardin tranquillement, on va se mettre au soleil car aujourd'hui fait une belle journée d'été. Voilà.
Là on voit déjà des patates immenses, des tomates, de la mélisse, des plants de fraisier et des fleurs. Il y a des fleurs, il y a plein de fleurs dans ce jardin.
Donc je me fais fort de planter, mon challenge déjà c'est la biodiversité. On peut dire que déjà il y a une trentaine, pour ne pas dire une quarantaine de sortes de légumes dans ce jardin. À chaque fois que je plante un légume, j'essaie de mettre de la variété. C'est-à-dire des tomates, je n'ai pas une variété mais j'en ai 7 ou 8. Les citrouilles, j'ai environ 10 variétés de citrouilles. Un petit peu pour me... C'est un jeu pour avoir de la biodiversité tout simplement. Et parce que chaque légume a parfois son utilisation. Voilà. Alors c'est un jardin où je fais beaucoup de compost, je l'ai dit, et on le voit aux plantes. Parce que les plantes, mon dada c'est ne pas donner d'engrais chimiques bien entendu aux plantes, c'est de les nourrir au travers de l'amélioration de la terre. Donc l'amélioration de la terre se fait chez moi toute l'année, si possible plutôt à l'automne. Il n'y a pas de saison, mais en tout cas on ne met pas d'engrais au pied des plantes deux jours avant de les planter. Parce que je ne nourris pas mes plantes. Je dis toujours, je ne donne jamais d'engrais, plus engrais bio, engrais organique, à mes plantes. Je donne de l'engrais à ma terre. Je nourris ma terre, je donne à manger à mes vers de terre et toute la flore et la faune d'ailleurs, la flore et la faune qui vit dans la terre. Ça va se passer, ça va durer tout l'hiver. Cette flore et cette faune vont tranquillement transformer ma matière organique. C'est bien là le mot, la matière organique. Et ensuite, les plantes, quand on va les planter, elles vont utiliser tout ça. Il faut voir à longue échelle. Quand on met du bois ramé alpha augmenté dans sa terre en juillet, eh ben, ça va faire de l'engrais pour l'automne de l'année d'après. Il faut toujours avoir un an d'avance au jardin. Voilà.
Alors là, on voit que la terre est nue. Toi, tu pailles pas à cette saison, tu pailles pas au moment où tu mets tes plantes.
Je ferai du paillage. Alors ça dépend des cultures. Là, on est en début de culture. Pour moi, on ne paille pas en début de culture. Surtout quand on a eu un mois de mai comme on vient d'avoir, avec beaucoup de froid et de pluie. Si on paille là, on va retenir la fraîcheur, pour ne pas dire la froideur, dans la terre. Et ensuite, on va favoriser l'infestation de limaces. Parce que les limaces, elles vont adorer ce milieu humide qui est au pied des plantes et elles vont aller tout manger. Donc moi, je ne paille que quand la chaleur est rentrée sous terre.
Moi, j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu as déjà récolté là? Qu'est-ce qu'on peut manger en ce moment dans ton jardin?
Alors, en ce moment, dans mon jardin, alors on a commencé par la serre. À la serre, j'ai commencé à semer ou à planter en janvier. Donc, dans ma serre, j'ai déjà récolté plusieurs catégories de radis, de salades, de pommes de terre, de carottes nouvelles. Dehors, j'ai mangé les épinards, j'ai mangé des salades. J'ai commencé ici, vous voyez pourquoi la terre est nue, parce que je viens de ramasser 2 pieds de pommes de terre. Donc, les pommes de terre plantées le 8 mars, eh bien, je commence à les manger le 20 mai.
Et t'as des fraises?
Alors j'ai des fraises. Vous voyez les fraises, il faut aussi savoir laisser faire la nature des fois. L'année dernière, j'ai planté une trentaine de pieds de fraises ici, la raie qui est tout au bord. Et à côté, je n'ai rien planté pour laisser la terre se reposer, mais j'ai paillé la terre justement. À l'automne, j'ai incorporé et j'ai laissé les fraisiers gagner. Et ainsi, avec une trentaine de pieds achetés de fraises, aujourd'hui, 30 pieds de fraises, je suis passé à 20 mètres carrés de fraises, gratuitement. C'est aussi ça, pour moi, c'est important. Dans un jardin comme ça, j'estime que je peux nourrir à peu près 10 personnes. J'essaie que mon jardin me coûte moins de 100 euros par an. J'essaie de faire le jardin, pour moi, c'est économique. C'est mon deuxième dada, mon premier, c'était le compost. Mon deuxième, c'est faire ses plants. Alors j'ai pas dit faire ses graines. Alors je suis venu à oui, parce que j'ai toujours fait mes plants, mais je n'ai pas toujours fait mes graines. On va dire que plus ça va, plus je fais mes graines. On va en reparler tout à l'heure avec l'association Jardin Nature 48. On a un gros projet qu'on est en train de mettre en œuvre depuis 2 ou 3 ans, de faire nos graines pour pouvoir donner des graines au musée du Gévaudan, hein, parce qu'on a un partenariat pour ça avec eux. Et puis aussi, tout simplement, pour nous-mêmes, pour les gens de l'association, lors de troc de graines, on peut s'échanger nos graines. Donc ici, le jardin pédagogique, on apprend à faire ses graines, conserver ses graines et propager ainsi de suite. Comme ça, on se rend compte qu'avec très peu de moyens, on peut faire des graines pour toute la Lozère. Pour donner un exemple, quand j'ai commencé à faire mes graines il y a 3 ans, j'ai fait des graines de navet en laissant mes navets. J'ai récolté, je vais vous dire un chiffre qui est très vrai, j'ai récolté 200 000 graines de navet. Avec mon petit carré de navet, je peux faire 10 tonnes de navet. Alors moi, je ne vais en faire que 10 kilos. C'est pour vous dire, si là, on a un autre sujet qui s'amène, c'est la sécurité alimentaire. Parce que les temps sont ce qu'ils sont, l'argent manque chez beaucoup de gens, et on se rend compte qu'avec le jardinage, avec très peu, avec 10 navets, eh bien, on peut faire ça. Et ça, quand on commence à réfléchir à ça, on commence à s'émerveiller. Et c'est pour tout pareil, des pommes de terre. Je vais récolter 300 kg de pommes de terre avec un minimum d'effort. Et ça va être apprécié par tout le monde, je peux vous dire. Car le rendu d'un jardin comme ça, bon, j'y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais ceci dit, c'est très très valorisant de sortir des légumes comme ça, tout beau, tout bio aussi, et tout bon, bien entendu.
Dans les actions du projet alimentaire de territoire, on parle effectivement d'augmenter notre potentiel nourricier. Donc Jean-Jacques, tu y contribues pleinement. Ouais. Et c'est vrai qu'on sait aussi que faire du jardin, c'est quasiment thérapeutique. Donc c'est pas que manger les légumes bio de son jardin, mais c'est aussi être dehors, partager avec d'autres quand on échange des plants, des graines, et avoir la satisfaction soit de manger ses légumes, soit même de pouvoir en offrir. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit dans certains jardins partagés qui peuvent être animés par des associations comme Quoi de Neuf, que ça contribue aussi au bien-être et à la santé des habitants.
Moi, quand j'arrive au jardin, c'est vraiment mon bonheur. Le dicton chinois est très vrai. Si tu veux être heureux toute ta vie, plante un jardin. C'est exactement ça. Quand on arrive là, moi, je sais pas, j'ai planté, on peut circuler un petit peu tranquillement. Tu vois, l'été, je sème des fleurs bisannuelles, comme par exemple des pensées, des violettes.
Chez moi aussi, j'en ai, mais elles sont beaucoup plus petites.
Voilà. Magnifique. Et quand l'année d'après, moi, chaque fois que je viens au jardin, du mars à juin, je vois ces pensées, je me mets à genoux et je suis émerveillé. Et tant que je suis émerveillé, c'est que la magie du jardin opère toujours. Et là, c'est des fleurs. En plus, elles ont, ça émerveille les yeux, ça fait venir les pollinisateurs. Alors, pas trop les pensées. Ok. Mais moi, toutes les fleurs sont les bienvenues dans mon jardin. Et ça, vraiment, au niveau du moral, c'est très, 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 très important.
Petite adresse aux élus locaux, aux nouveaux élus. Donc, si vous avez des projets de jardin partagé, vous rendrez heureux vos habitants. C'est quand même un sacré programme là, pour la nouvelle mandature. Et le PETR peut vous accompagner sur ces questions-là.
Là, on commence à voir mes fraisiers dans des souks, des Cévennes. Dans les Cévennes, on fait des vignes en souk. Mais moi, j'ai fait des pots, tout simplement, totalement bio. Et là, c'est des jolies fraises qui... Voilà. On voit là les tomates que je vais amener à Chanac. Parce qu'à Chanac, samedi 23 mai, nous allons planter dans un jardin partagé, justement, tous les plants qu'on a fait ici, l'atelier, pour produire les graines du musée du Gévaudan. Donc là, sous les yeux, vous avez mes plants de tomates qu'on a fait ensemble. Tomates russes, tomates de Marmande. Vous voyez, ce sont déjà des beaux plants bien fleuris. Voilà, ce sont des plants que j'ai fait au mois de mars à Ispagnac, repiqués avec l'atelier au mois d'avril. Ils sont tout à fait prêts à être replantés. Alors là, c'est ma serre. Là, si vous voyez la serre...
Ah, la taille des salades.
Il ne reste rien dans la serre. La serre était pleine encore la semaine dernière. Il y a déjà eu deux générations de légumes semés, plantés, récoltés. Donc là, on en est à la troisième génération, sauf les carottes, bien entendu, qui ont été mises, voilà. Vous avez aussi les fèves.
Bah voilà, voilà, ça y est.
Les belles fèves.
On peut les manger.
Sans pêcheron, sans traitement, et je n'ai rien fait.
C'est du bol, ça.
Non. J'ai dit au pêcheron, avec tout ce que vous avez à manger autour, pourquoi vous viendriez manger mes fèves? Et ils sont allés sur celle de dehors, là-bas. Ils ont laissé celle-là tranquille. Ouais. Ne plantez pas, si vous êtes amateur, des courgettes sous serre. Vous n'y arriverez pas, elles vont être malades tout de suite. Il rigole, le monsieur là-bas, parce qu'elles vont attraper l'oïdium, parce qu'il y a une sorte de confinement et d'humidité qui fait que tout ce qui est cucurbitacé sous serre. Alors les professionnels le font, mais eux, ils ont d'autres serres que nous, ventilés, chauffés, aérés. Voilà. Là, vous voyez les plants qui restent ici. Là, c'est le sol de tous mes plants. Tout ce qui est cucurbitacé, de citrouilles, de plusieurs sortes, hein. C'est pour l'atelier de Chanac de samedi. Il y a des belles salades, il y a des belles blettes, il y a il y avait des raies de pommes de terre qui ont été enlevées pour être mangées et qui sont succulentes. Les premières pommes de terre du 28 avril, je peux vous dire que c'est les meilleures. Ça va aller à la grainothèque. Il faut juste avoir la patience de les laisser un petit peu. Qu'elles montent, qu'elles fleurissent. Là, elles ont fait tout de suite parce qu'il a fait trop chaud au mois d'avril. Là, on peut constater aussi, on peut voir ici, les plants de salade pour l'atelier de jardin nature de samedi. Alors je leur ai fait faire aussi des plants de bourrache. Toujours des fleurs. La bourrache, c'est très bon. Ça peut même se manger pour agrémenter la salade. Ça a un petit goût d'huître.
Ouais,
voilà. Les tomates cerises, un petit peu, parce qu'il faut toujours avoir beaucoup de variété. Et on continue la visite.
Des ouais. Choux sans punaises.
Alors les punaises,
gendarme.
Je les enlève à la main.
Ouais.
Alors c'est les salades. Alors il y avait d'abord dans la serre, puis il y avait ensuite celle-ci dans la serre, puis maintenant il y a celle-ci. Et puis là-bas il y a des salades semées qui sont sorties. Et puis là il y a des salades que je vais même prendre pour moi. Il y a déjà 4 générations de salades. Les salades, il faudra en planter 12 tous les mois. C'est tout. Donc là vous avez mes choux. Faites des choux, pas l'été en Lozère. Surtout sud Lozère. Vous ne les tiendrez pas, ça sert à rien. Les alpises et les punaises vont vous les manger. Donc moi, je sème mes choux en janvier ou en août. Comme ça, je les mange en avril, mai, juin, ceux-là. où je les mangerai en novembre, décembre, janvier, ceux semés au mois d'août. Et ainsi, vous n'aurez pas de maladie ni de bêtes. Là, ce sont des choux-fleurs. Ensuite, j'ai mis des melons, bien évidemment semés ici aussi. Des melons, des pastèques, des fleurs.
Qui sont protégées par des petites cloches.
Jusqu'à hier, j'ai récupéré des petites cloches d'anciennes petites serres et où je n'ai plus le fond. Et ça permet de faire vraiment un microclimat tropical pour les plantes qui, vraiment, au début, ont besoin de beaucoup de chaleur. Là, par exemple, ce sont des pastèques. Pastèques, melons. Ben, les échalotes ont été plantées début mars, tout début mars. En principe, il vaudrait mieux les planter février. Plus tôt c'est planté, mieux c'est. Oui. Je le dis aux gens qui plantent leurs oignons en ce moment, c'est trop tard. Parce qu'il va faire très chaud cet été, il va faire 45, on le sait. Pendant 3 mois, peut-être 4 mois. Donc les oignons, l'ail, l'échalote, voilà. Donc les oignons de Mulhouse. Là-bas par contre, j'ai mis des raillolettes, des oignons doux des Cévennes. La semaine dernière, à la foire de Florac, il y avait pas mal de marchands du Gard. Et donc, j'ai acheté quelques raillolettes histoire d'avoir des oignons pour l'été. Ça, c'est des oignons de conservation, donc très intéressant. Je pense à mon père qui avait ce style de légumes, parce que j'ai toujours vu mettre ça. Ce sont des oignons qui se gardent jusqu'en avril 2027.
Et donc là, ces oignons, tu vas les récolter avant qu'il fasse trop chaud.
Voilà, ces oignons-là, de toute façon, à partir de début juillet, ils seront mûrs. Mmh. Comme on est en juillet, il pleut rarement ici en juillet, ils vont sécher tout tranquillement. Je vais les laisser sécher jusqu'à temps que les tiges soient vraiment jaunies, au maximum. Je vais les arracher courant juillet, je vais les laisser quelques jours dehors et je vais les rentrer. Ils vont se garder jusqu'en mars, avril, mai de l'année d'après. Donc là, le jardin vivrier joue à plein. Les échalotes, c'est pareil. Toujours des fleurs, des tomates cerises, des artichauts de semis. J'essaie toujours aussi de faire des choses plus tôt. Un petit bout de vitre, un mur au sud, dans les Cévennes méridionales, c'est encore, si j'y étais, je ferais encore plus. Là, on a des courgettes qui vont arriver la semaine prochaine, fin mai. Pour moi, la courgette fin mai, c'est super, quoi. Parce que, qu'est-ce qu'on a fin mai comme légumes au jardin? Salade, radis,
blettes.
Moi, blettes, ceux qui leur ont fait passer l'hiver. Donc moi, la courgette, on voit des petites courgettes déjà, on les voit, la fleur arrive, là c'est une fleur mâle, mais il y a aussi des fleurs femelles. Il m'arrive de faire la pollinisation moi-même, au tout début, car il n'y a pas assez de fleurs. Il m'arrive même d'aller, avec son accord, dans les serres de M. Paulet, chercher une fleur mâle pour polliniser mes fleurs femelles, quand elles sont trop toutes seules, et qu'elles s'ennuient au début, au printemps, et qu'il y a un décalage des fois entre au début de pousse, il m'arrive de jouer au pollinisateur. On a des petits fruits aussi, enfin petits. Des murs sans épines. Là, ce sont des tomates qui m'ont été données. Choux de brocoli. On les reconnaît à leurs feuilles un peu comme des chênes et feuilles bleues. Et après, ici, ce sont des choux de Bruxelles. Alors, le chou de Bruxelles, le problème ici, j'ai dit, il ne faut pas faire de choux. Alors, je suis pas le bon. On me les a donnés, je les ai plantés. J'espère qu'ils passeront l'été parce que l'été hispanique est quand même long, chaud et sec. Et les bêtes ont tendance à manger les choux. Donc on essaie de plus en mettre l'été. Bon ben là j'ai fait un test. Je les mets ici parce qu'ici dans le jardin c'est l'endroit le plus frais le matin. Et les altises, les punaises, diverses petites bestioles qui adorent, qui raffolent du chou, l'aiment quand il fait chaud et sec. Donc si vous avez des choux et que vous voulez absolument mettre des choux, soit vous êtes en Haute-Lozère à 1200 et là ça ira. Si vous êtes dans les Cévennes, vous les mettez à l'endroit le plus frais de votre jardin l'été.
Mmh, on peut et peut-être tenter de les mettre sous nos treilles, puisque nous, peut-être. Maintenant, dans les Cévennes, on
fait beaucoup de treilles.
Sous oui. Treilles.
Voilà, ou si vous avez un mur qui fait un peu d'ombre, un arbre comme là, qui fait un peu d'ombre, c'est pour ça que moi, j'ai le châtaignier là qui me fait beaucoup d'ombre. Et donc, c'est à l'ombre tout le matin ici, et j'ai mis mes choux là. Et je vais essayer de les sauver comme ça. J'essaie toujours de sauver mes légumes en les mettant là où il faut. On pourrait aussi parler de rotation de culture. Ça va peut-être être un peu juste en temps. Mais j'essaie tous les ans de faire une rotation triennale, si possible, de mes plants. Donc c'est assez facile au moins pour les grosses cultures. Je sais que les patates cette année sont là. Je le vois bien, même si c'est l'hiver, je matérialise l'endroit. Donc déjà l'année prochaine, je vais pouvoir mettre du compost prioritairement là, parce que là, les pommes de terre, elles ont bien consommé. Mmh. Et à la place, l'année prochaine, je mettrai des plantes peu exigeantes, comme l'oignon ou comme le haricot. Donc il y a trois grandes familles de plantes et on essaie de faire une rotation plus ou moins triannuelle.
c'est des lasagnes.
On va aller voir les lasagnes. Donc là, quand je me suis mis vraiment intensément à la permaculture, je me suis mis à faire du compost comme je faisais avant. Alors j'ai fait des énormes tas d'un mètre cinquante de haut à l'automne, et puis je les ai laissés se réduire et devenir compost. Mais pour éviter que le compost se répartisse un peu partout, j'ai fait des buttes de culture, mais je les ai encadrés avec du bois. Ça évite que le compost parte là, au milieu de là où tu es. Et du coup, ça, pour vous dire, trois lasagnes comme ça, l'année dernière à l'atelier, c'est peu croyable. À l'atelier compost, on fait tous les ans un atelier compost chez moi. On a vidé les trois lasagnes, ça fait 6 mètres carrés, et j'ai obtenu 21 grosses brouettes de compost. Donc là, on produit même son compost. 21, je ne sais pas si vous voyez ce que ça correspond à un nombre de sacs de compost, ou disons de terreau, acheté, si vous deviez l'acheter. Voilà. Et donc ce compost, je le mets prioritairement au travers de ma rotation des cultures, dans l'endroit du jardin, où l'année d'après, j'aurai vraiment des cultures exigeantes. Voilà. Donc là, je me suis amusé à repiquer les salades en trop, pardon. Les premiers concombres qui ont un petit peu pris mal ces derniers temps parce que le mois de mai a été trop pluvieux. Mmh. Voilà, toujours des fleurs. Ça, c'est le semis d'œillet de poète. Donc la lasagne, je la vide tous les ans, en un an, en 9 mois. Le déchet brut, c'est-à-dire la plante de tomate qu'on ramasse au mois d'octobre, qui a gelé et qui est foutue, qui est malade d'ailleurs, je la mets dans ma lasagne. En avril de l'année d'après, je suis capable de repiquer dessus, à sa place, tout ce que vous voyez là. Donc en un an, le cycle se reproduit. Là-bas, il y a du compost. Ici, il y a du compost. Là-bas, il y a du compost. Là-bas, il y a du compost. Je tombe parfois même, pas au début, parce que je laisse mes prairies fleurir pour les pollinisateurs. Mais ensuite, je fane, je fais ma matière sèche, ma matière carbonée. Ensuite, je tombe, je mets ma matière azotée. Et ainsi de suite, c'est ma première préoccupation du jardin, la fabrication du compost, avec diverses couches de matériaux.
Et tu mets pas du tout de fumier d'origine animale?
Alors, j'ai mis... Certaines années, il y a 2 ans, j'avais mis une petite remorque, je connaissais un paysan, qui me donnait du vieux fumier d'environ 2 ans.
Ouais, du fumier.
J'aime mettre le fumier quand il est comme du... quand on peut le toucher à la main sans se salir, qui ne sent pas le fumier, et qu'il est comme du marc de café. C'est-à-dire un fumier qui a au moins 1 an, pour ne pas dire 2. C'est ma matière favorite, dirais-je, hein, parce que le fumier frais, ça a plus d'inconvénients que d'avantages. Si... chez vous, on vous livre un paysan du fumier, très bien. Si vous voyez qu'il est encore à l'état de fumier, pas assez vieux, moins de 6 mois, vous le laissez en tas. Vous n'y touchez pas. Vous mettez vos tontes dessus, vous mettez du compost dessus pour le tenir à l'abri du soleil, de la pluie, c'est tout. Et vous attendez 6 mois, 1 an. Et dans 1 an, vous pourrez l'utiliser. Ne l'utilisez pas pur, vous allez brûler vos plantes. Et vous allez apporter que de l'azote, de l'urée, de l'ammoniac à vos plantes, à votre terre. C'est assez polluant d'ailleurs. Donc, voilà. Et là, toujours des fleurs, bien évidemment. Des fleurs, des cosmos, des reines marguerites, mon excédent de betterave rouge. Je le fais un peu comme l'inspiration me vient. Donc toujours légumes, fleurs, fleurs, légumes, fleurs. Et on m'a souvent dit, mais ton jardin, c'est une jungle. Et c'est vrai qu'arrivé au mois de juin, on ne voit plus la terre. Les plantes sombrent les unes les autres. J'essaie de faire que les ombres des grandes plantes comme le maïs ombrent les plantes plus petites et plus qui ont besoin d'une certaine fraîcheur. Je fais des associations de tailles, de formes de feuilles pour essayer de créer de l'ombre là où il n'y en a pas, créer de la lumière où il la manque, et ainsi de suite pour le confort des plantes. Parce que les plantes, si vous leur donnez un certain confort, et si vous les mettez dans une terre riche, elles ne peuvent que pousser. Et surtout, laissez vos pucerons manger vos cultures. Car si vous enlevez vos pucerons, vous enlevez vos coccinelles. Et si vous enlevez vos coccinelles, vous enlevez les oiseaux. Et si vous enlevez les oiseaux, vous enlevez les rapaces. On oublie trop. Quand on arrive chez moi et qu'on voit une plante avec des pucerons, je veux plus entendre la question « Mais comment tu fais pour enlever tes pucerons ?» Si on enlève les pucerons, on enlève l'homme. Manque de bol, l'homme il est en début de chaîne alimentaire, c'est lui le super prédateur. Il faut savoir laisser dans un jardin naturel, et c'est vraiment la politique de Jardin Nature 48, mais pas que, c'est d'avoir un jardin sans traitement, un jardin qui pousse tout seul, un jardin qui pousse et où on est toujours en accord avec la nature, qu'on respecte le végétal et qu'on respecte aussi les pucerons.
C'est une super conclusion, merci pour cette visite. À bientôt.
Merci à vous.
Eh bien, merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 mois pour une prochaine émission de Chaud Patate. Et donc c'était la 20e émission, donc ça se fête. Merci Julien, à bientôt.
Ben, merci Florian à toi pour ce temps-là, c'était chouette.
À table !
Bienvenue sur Chaud Patate,
l'émission du Pat.
Le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère.
L'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire.
À table.
Et rien de mieux que Chaud Patate pour accompagner votre repas un samedi sur deux à 12h30.